Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Pour que cesse l'inaction politique face au dérèglement climatique, un collectif d'étudiants français appelle à manifester aujourd'hui. Ils rejoignent ainsi le mouvement mondial qui s'organise depuis plusieurs mois. Les détails et témoignages à suivre.
Nous irons ensuite aux États-Unis où Donald Trump accepte un compromis sur le budget, mais pour financer le mur à la frontière mexicaine, il décrète l'urgence nationale.
Le corps de Franco sera-t-il exhumé ? La décision doit être normalement entérinée ce midi par le gouvernement espagnol, car le mausolée est très critiqué, vous l'entendrez.
Les négociations sur l'assurance chômage sont toujours dans l'impasse. Le patronat a moins d'une semaine pour proposer une alternative au système de bonus-malus sur la précarité.
Comment décompter le temps de parole d'Emmanuel Macron ? La France insoumise et les Républicains fustigent une campagne déguisée au travers du grand débat national en ce moment. Frédéric Saïs y reviendra dans son billet politique après ce journal. C'est le cri d'une génération. Les jeunes Français rejoignent aujourd'hui le mouvement mondial de grève pour le climat. Collégiens, lycéens, étudiants feront ce vendredi l'école buissonnière pour inciter les élus à prendre des mesures concrètes, des mesures pour lutter contre le changement climatique. Ils vont se retrouver notamment en début d'après-midi à Paris devant le ministère de la Transition écologique. Jusque-là, face à plusieurs pays, la France faisait figure de grande absente. Ce ne sera plus le cas à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Véronique Rebérotte.
L'appel aura mis plus de temps à être entendu en France qu'ailleurs en Europe. Depuis plusieurs semaines, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, des milliers de jeunes font la grève scolaire à l'appel d'une jeune Suédoise, Greta Thunberg. Lors de son passage au dernier sommet sur le climat, ou plus récemment à Davos, la militante du climat, âgée de 16 ans, n'avait pas mâché ses mots devant les dirigeants ou les grands patrons de la planète. « Vous n'êtes pas mature », leur avait-elle dit, « notre génération n'a pas d'autre choix que de se mettre en colère face à votre inaction qui ruine nos espoirs. » Appel relayé désormais en France, devant le ministère de la Transition écologique, les étudiants appelleront tout à l'heure le gouvernement français à déclarer l'état d'urgence écologique et sociale. Zéro degré ou zéro pointé, c'est notre avenir qui est en jeu, écrivent les jeunes français, avec une première revendication très précise. La France doit s'engager dans la voie d'une réduction annuelle de 4% de ses émissions de gaz à effet de serre, afin de s'aligner sur l'accord de Paris sur le climat. Sans réponse dans la semaine qui suit, les étudiants mèneront de nouvelles actions autant de vendredi qu'il le faudra. Une autre date est déjà fixée. Un appel a été lancé pour une grève internationale le 15 mars prochain, car personne, font savoir les jeunes, personne n'a envie d'étudier ou de travailler pour un futur qui n'existera pas.
Des grèves, des marches mondiales donc, tous les vendredis. Elles ont, et Véronique l'évoquait à l'instant, elles ont pris une ampleur particulière en Belgique, rassemblant des milliers de jeunes depuis un mois et demi. Ils étaient encore 11 000 la semaine dernière. À leur tête, deux jeunes filles qui ont créé le mouvement Youth for Climate. Notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin, a rencontré l'une d'elles, Adélaïde Charlier, 18 ans. Elle est scolarisée à Namur et elle les présente lors de tous les rassemblements. Un peu dépassé par le mouvement.
Entre deux interviews, Adélaïde se trémousse sur le son de la musique en tête de cortège, les flashs crépitent. À 18 ans, elle a été propulsée porte-parole francophone de ce mouvement inédit qui secoue la Belgique depuis 6 semaines. Ils étaient 3000 le premier jeudi, jusqu'à 35 000 le 24 janvier.
Le fait que ce soit régulier, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre cet objectif pour plus d'action pour le climat. Tout a commencé en Suède avec Greta. C'est pas une grosse manifestation, mais c'est Greta qui s'assied devant son parlement en Suède. Ensuite, il y a eu en Suisse, j'ai entendu même en Australie. Il faut surtout pas arrêter, il faut continuer jusqu'à ce qu'on a un vrai changement.
Avec son acolyte flamande, Hanouna, les rendez-vous politiques s'enchaînent. Audition devant le Parlement wallon, rencontre avec des eurodéputés. Aucun financement autre que participatif pour ce mouvement et un refus très net de se laisser récupérer par un parti ou une ONG. Du coup, on se débrouille comme on peut, confie la jeune fille, mais on ne lâchera rien.
C'est pas facile parce qu'on n'a pas, on n'est pas une association, on n'est rien, donc on se retrouve chez nous, dans nos maisons, des bars, mais on n'a jamais vraiment un endroit précis.
Et sa scolarité, eh bien comme Hanouna, elle dort peu pour rattraper les cours et mes parents me soutiennent, insiste-t-elle, on est tous concernés.
Concerné, le gouvernement français dit l'être également par la lutte contre les changements climatiques. Il a répondu aux ONG qui menacent de le poursuivre pour inaction climatique. Il s'agit de la pétition signée par 2 millions de personnes en France. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, dans un courrier, a expliqué hier que l'exécutif se donnait les moyens pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone d'ici à 2050. Même si, écrit-il, cette action devra être complétée, prolongée et amplifiée dans la durée. Cela n'a pas convaincu la fondation Hulot, Greenpeace France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France. Ces ONG vont bien déposer un recours en justice, voilà ce qu'elles disent. Eux luttent pour le climat à leur façon, les adeptes de la déconsommation, consommer moins, mieux et autrement pour des raisons environnementales mais aussi économiques ou pour simplement se sentir mieux. Rencontre ce soir sur France Culture avec ces déconsommateurs, ce sera à partir de 17h dans le grand reportage de la rédaction, il est réalisé par Lise Verbeck. Donald Trump a choisi la confrontation et l'ambiguïté. Il va bien promulguer le compromis budgétaire obtenu par les négociateurs républicains et démocrates au Congrès. Il évite ainsi le shutdown, la paralysie budgétaire partielle aux États-Unis. Mais Donald Trump prononce dans le même temps l'urgence nationale pour financer le mur qu'il a promis à la frontière mexicaine. Nous retrouvons Grégory Phillips, notre correspondant à Washington. Grégory, en quoi consiste cette urgence nationale ?
C'est une procédure qu'on connaît. Les prédécesseurs de Trump l'ont fait. On se souvient que W. Bush l'avait fait après les attentats du 11 septembre 2001. Obama l'avait fait au moment d'une épidémie très forte de grippe H1N1. Et donc là, Trump invoque l'urgence migratoire à la frontière sud pour déclarer cet état d'urgence. À quoi ça lui sert de déclarer cette procédure d'urgence ? Eh bien, tout simplement, ça lui permet de commencer à imaginer la construction de ce mur. Comment ? Parce que ça va débloquer quelques millions de dollars rapidement de manière urgente, ça va lui permettre aussi de mobiliser un peu plus de soldats à la frontière, et donc ça va permettre de dire à son électorat, à sa base électorale, regardez, malgré le blocage des démocrates et du Congrès, eh bien je me lance dans ces travaux avec cette procédure d'urgence.
Oui, parce que sa base, Grégory, commençait à s'en prendre à lui depuis quelques jours, depuis que le bruit courait d'un compromis budgétaire acté. Que va-t-il se dire maintenant ?
On va voir les réactions. Il y a d'un côté la base électorale de Trump qui va dire effectivement les travaux du mur vont débuter, même si ce sera surtout d'ordre symbolique. Et puis d'un autre côté, il y a les ultra-conservateurs. Je pense par exemple à la polémiste Ann Coulter, qui est un peu la voix de cette droite américaine, qui dit Trump vient de tuer les États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'il signe ce compromis dans lequel il n'y a pas 5,7 milliards de dollars pour construire le mur. Donc on va voir comment l'électorat trumpiste réagit dans les prochaines heures.
Et soulignons enfin que Donald Trump n'est pas sûr non plus de trouver l'argent pour construire ce mur, Grégory.
Non, et puis il y a un autre problème, c'est que les démocrates vont pouvoir très rapidement contester cette procédure d'urgence devant les tribunaux. Et d'ailleurs, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a dit qu'elle pourrait éventuellement contester ça devant un tribunal en disant qu'il n'y avait pas une urgence migratoire qui nécessite effectivement cette procédure d'urgence, que par exemple, la véritable urgence aux États-Unis aujourd'hui, ce serait le contrôle des armes. Vous savez que on commémore le premier anniversaire de la tuerie de Parkland en Floride. Donc très certainement, les démocrates vont contester ça devant les tribunaux. Et puis dans 6 mois, le Congrès devra examiner cette procédure d'urgence pour la valider ou pas, ou pour la poursuivre ou pas.
Merci. Grégory Phillips, correspondant à Washington. Les États-Unis encore, qui rappellent d'Haïti tous leurs diplomates non essentiels et leurs familles. Cela fait suite aux manifestations et aux violences qui s'y déroulent depuis une semaine contre la corruption. Au moins 7 personnes ont été tuées en 8 jours. Et ce n'est qu'hier soir que le président haïtien est sorti de son silence. Jovenel Moïse a annoncé qu'il se maintiendra à la tête du pays malgré les troubles. Le Brexit approche dans 6 semaines maintenant et la première ministre britannique est un peu plus fragilisée. Theresa May a proposé hier une motion dans laquelle le gouvernement expliquait comment il souhaitait renégocier l'accord de divorce conclu avec Bruxelles. Une motion rejetée par les députés par 303 voix contre 258. Le gouvernement assure qu'il va continuer à travailler pour obtenir un accord remanié, mais l'hypothèse d'un Brexit dur se rapproche, Antoine Gignot.
Le mois dernier, Theresa May se targuait d'avoir réuni derrière elle une majorité substantielle et durable. Il aura fallu moins de 2 semaines pour que cette unité de façade se disloque. En votant contre la première ministre, les députés eurosceptiques font passer un message essentiel. Ils sont prêts à entraîner le Royaume-Uni vers une sortie de l'Union européenne sans aucun accord. Certains, parce qu'ils considèrent que ce scénario catastrophe peut permettre d'arracher in extremis quelques concessions à Bruxelles. D'autres, parce qu'ils sont fermement persuadés que l'avenir du pays repose sur les échanges commerciaux avec l'Asie et les États-Unis. Dans les deux cas, ils ont sciemment savonné la planche déjà glissante sur laquelle marche la chef du gouvernement. Une dizaine de ministres menacent de démissionner s'ils n'obtiennent n'obtiennent pas un report du Brexit. Difficile d'imaginer qu'une Theresa May affaiblie, acculée, privée de majorité, puisse désormais continuer à discuter sereinement avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, ou avec Michel Barnier. Le négociateur de l'Union européenne a d'ailleurs déjà prévu de rencontrer la semaine prochaine un autre interlocuteur. Il va, selon le Guardian, s'entretenir avec Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes. Mais si la droite est en déconfiture, la gauche n'a pas non plus de véritable solution pour le Brexit. 41 députés viennent de voter contre l'avis de leur chef de file et demandent une prolongation des négociations. Plusieurs d'entre eux menacent aussi de quitter le parti si Corbyn ne se prononce pas clairement pour l'organisation d'un deuxième référendum.
Pedro Sanchez devrait annoncer des élections législatives anticipées en Espagne aujourd'hui. Le chef du gouvernement n'a pas réussi à faire voter son budget. Il doit prendre la parole ce matin devant la presse après le Conseil des ministres. Un conseil où il sera question de l'exhumation du corps de Franco. Le gouvernement espagnol donne 2 semaines à la famille de l'ancien dictateur pour trouver un lieu plus discret que l'actuel. La famille est opposée à cette exhumation. Depuis sa mort en 75, Franco repose dans un mausolée au dimension pharaonique près de Madrid, un lieu très critiqué sur lequel s'est rendue Marie-Hélène Ballesteros.
Niché en pleine nature à 50 km au nord-ouest de Madrid, dans une chaîne de montagnes, le Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, divise toujours autant les Espagnols. C'est ici que se trouve le mausolée de Franco, un endroit qui suscite le dégoût et un profond sentiment d'injustice chez Bonifacio Sánchez, porte-parole de l'Association pour la récupération de la mémoire historique.
L'endroit où nous sommes représente l'essence même de la dictature franquiste, le mausolée d'un dictateur qui a été construit par des esclaves du franquisme. On les a forcés à travailler ici dans des conditions inhumaines. C'est le seul endroit de ce genre en Europe. Comme ce site est inscrit au patrimoine national, tous les Espagnols ont dû payer jusqu'à présent les frais de maintenance de ce mausolée, alors que les victimes du franquisme, des démocrates, sont toujours éparpillées dans des fosses communes. C'est insensé.
Le tombeau de Franco est situé dans une basilique souterraine, creusée à même la roche. Pour y accéder, il faut traverser un long couloir dont les murs sont ornés de statues d'archanges au visage funeste. Une ambiance sinistre où les voix retentissent comme sorties d'outre-tombe. Pourtant, ce mausolée lugubre ne cesse d'attirer les foules ces derniers mois. Retraité, Carlos Prieto est venu en famille. Il est contre l'exhumation du dictateur et se dit indigné par cette mesure.
Qu'elle se dise, je ne suis pas franquiste, mais c'est vraiment idiot. Et tout ça est dû à l'ignorance du chef, du gouvernement. Comme il n'a rien de mieux à faire, il a pris cette décision. Mais c'est une idiotie, et lui c'est un ignorant. L'actuel chef du gouvernement n'y connaît rien. Ceci est un joyau, il ne faut pas y toucher. Il veut seulement essayer de gagner des voix.
Mais les avis sont partagés. Miquel est en visite à Madrid avec son fils. Catalan, ils saluent tous deux la décision du gouvernement socialiste, même si elle est un peu tardive.
Ça me semble bien, mais 40 ans après sa mort, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens. Il n'aurait jamais dû être enterré ici. Avec le retour de la démocratie, on aurait dû le sortir. Mais c'est vrai qu'en Espagne, il reste beaucoup de vestiges du franquisme. Et vous imaginez si Hitler ou Pétain étaient enterrés ici.
L'exhumation de la dépouille de Franco reste une priorité pour le gouvernement Sanchez, mais les héritiers n'ont pas dit leur dernier mot.
C'était un reportage de Marie-Hélène Ballesteros depuis Madrid pour France Culture. La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, le dit à l'instant, l'ambassadeur de France repart aujourd'hui à Rome. L'ambassadeur français avait quitté l'Italie il y a une semaine maintenant, sur demande de Paris. Le gouvernement français déplorait des accusations répétées, des attaques sans fondement de la part de Rome.
8h13 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les négociations sur l'assurance chômage sont de nouveau bloquées.
Ah oui, sur la question des contrats courts et la lutte contre la précarité. L'avant-dernière séance de discussion a pris fin hier soir après plus de 7 heures de réunion. Seul petit espoir tout de même, un délai de 5 jours. Pendant ce temps, le patronat doit réfléchir et proposer un nouveau texte sur la précarité. Il est désormais au pied du mur. Voilà ce qu'estime Marie-Lise Léon, négociatrice pour la CFDT.
On n'a pas claqué la porte, ni les syndicats, ni les organisations patronales. Néanmoins, la négociation est totalement bloquée et on a acté qu'il n'y aurait des blocages que si le patronat venait avec une proposition de modulation des cotisations, c'est-à-dire une forme de bonus-malus, quelle qu'elle soit. La balle est dans leur camp. On aura le verdict mardi prochain et on verra si le patronat est en capacité de prendre ses responsabilités, tout simplement pour lutter contre les contrats courts qui concernent une grande partie des travailleurs en situation précaire.
La négociatrice de la CFDT, Marie-Lise Léon. Une nouvelle figure du mouvement des Gilets jaunes devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui. Il s'agit d'Éric Drouet, jugé ce matin pour organisation de manifestations sans déclaration préalable. Son interpellation près des Champs-Élysées à Paris le 2 janvier dernier avait indigné à droite comme à gauche. Les manifestations des Gilets jaunes, Emmanuel Macron n'en veut plus et il appelle à revenir à une saine raison. Lors d'un déplacement dans l'Indre hier, dans le cadre du grand débat national, le chef de l'État a aussi et surtout écouté les maires qui lui ont exposé les problématiques du monde rural. L'État devra payer davantage. À la surprise générale, un amendement a été voté hier pour compenser les nouvelles charges des communes. L'instruction obligatoire des enfants dès l'âge de 3 ans a en effet induit des charges supplémentaires et la compensation prévue de l'ordre de 100 millions d'euros sera donc plus élevée que prévu, selon l'amendement voté par les députés hier à l'Assemblée, et ce contre l'avis du gouvernement. Et puis notons aussi cet appel à l'union contre l'antisémitisme lancé par 14 partis en France, La République En Marche, le Parti Socialiste, Les Républicains ou encore Europe Écologie Les Verts. Ils invitent notamment à des rassemblements mardi prochain. Un soleil généreux est prévu sur la France métropolitaine ce vendredi, sous des températures encore douces. Ce matin, il fait 4 degrés à Lille, 5 à Paris, 6 à Lyon, Limoges, Bordeaux, 12 degrés à Nice. Comptez 12 à 18 degrés cet après-midi et ça va durer tout le week-end.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.